Et à 18h, c'est l'heure du journal qui est donc présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les syndicats de cheminots se concertent en vue d'une grève unitaire. Ils rejettent la réforme de la SNCF défendue par Édouard Philippe. Le gouvernement est prêt à recourir aux ordonnances pour faire passer rapidement cette réforme qui prévoit notamment la fin du statut de cheminot. Les étudiants en médecine, en maïeutique ou en soins infirmiers mobilisés pour devenir des ambassadeurs de santé. Agnès Buzyn et Frédéric Vidal précisent les contours du futur service sanitaire. Vladimir Poutine ordonne une pause humanitaire quotidienne dans la Routa orientale à partir de demain. Le président russe annonce aussi l'ouverture d'un corridor humanitaire pour permettre aux civils syriens de quitter l'enclave. Les conservateurs allemands approuvent très largement le projet de gouvernement avec les sociaux-démocrates. C'est un soulagement pour la chancelière Angela Merkel qui a dû faire face à de sévères critiques au sein de la CDU. Le temps est venu d'oser la réforme que les Français savent nécessaire, a déclaré ce matin Édouard Philippe, tout en affirmant qu'il ne cherchait l'affrontement avec personne. Le Premier ministre a montré sa détermination à transformer la SNCF. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie.
Le Premier ministre qualifie la situation à la SNCF d'alarmante, pour ne pas dire intenable. Il promet une mesure bonne pour tout le monde, pour le service public, pour les cheminots, comme pour les usagers. Mais la mesure la plus forte symboliquement, c'est la fin du statut de cheminot. Et pour mener à bien cette réforme, il y aura recours aux ordonnances.
Oui, 50 milliards d'euros de dette, des coûts supérieurs de 30% par rapport à l'Allemagne et aux Pays-Bas. C'est pour faire face à une situation alarmante que le Premier ministre a justifié le recours aux ordonnances. Édouard Philippe veut aller vite avec la présentation en Conseil des ministres de projet de loi dès le 15 mars prochain.
Face à l'urgence, le gouvernement est déterminé à en faire voter les principes clés avant l'été. Le recours aux ordonnances permettra de mener une large concertation. Les ordonnances travail ont prouvé que cette méthode ne confisquait aucunement le débat, bien au contraire, sauf à considérer que 300 heures de concertation et une centaine de réunions n'auraient pas laissé assez de temps à l'expression des opinions contradictoires. Mais si certains sujets s'enlisent au cours des concertations, en pâtissant de tentatives d'obstruction ou de rapports de force verrouillés, si certains tentent de confisquer le débat ferroviaire pour le pervertir en un débat idéologique déconnecté des besoins des mobilités des Français, alors le gouvernement prendra ses responsabilités.
Un discours et des méthodes qui ne passent pas pour les syndicats, qui appellent à la grève dès le 12 mars prochain, car la réforme marque aussi la fin du statut de cheminot pour les futurs entrants à la SNCF. Et avec l'ouverture à la concurrence, dès que l'entreprise ferroviaire perdra un appel d'offres, les salariés concernés seront directement transférés d'entreprise qui aura remporté le contrat. Bruno Poncet, délégué Sudrail.
Il faut appeler un chat un chat. Évidemment, si vous ouvrez la concurrence et que des entreprises privées se mettent récupèrent les marchés, effectivement, vous dites les cheminots sont transférés de force. Oui, effectivement, ils sont transférés. Mais quand quelqu'un est transféré, il ne garde pas ses avantages ou ses acquis qu'il avait avant. Il va se retrouver sous les nouvelles règles de la nouvelle entreprise.
Mais pour Olivier Boissou, secrétaire CFDT cheminot, l'État a également sa part de responsabilité dans l'endettement de la SNCF.
Aujourd'hui, les frais financiers, on rembourse 1,5 milliard par an de dettes qu'on n'a pas créées, on a imposées. Quand on dit voilà, faut sauver Alstom en leur commandant des machines, la SNCF commander des machines ou des TGV, des choses comme ça, dont on n'a absolument pas besoin, mais pour sauver l'industrie française, et ça a quand même du bon aussi, mais on a obligé les différentes directions à s'endetter, et au jour d'aujourd'hui, on se dit, ah ben tiens, il y a une dette, qu'est-ce qui se passe? Non, enfin, c'est quand même purement scandaleux.
Demain, la SNCF doit annoncer des résultats annuels records, ce qui dévoile encore plus enliser le dialogue social.
Hakim Kasmi, et pour mieux comprendre ce qu'implique le recours aux ordonnances dans la réforme de la SNCF, rendez-vous sur franceculture.fr. Une réforme qu'Édouard Philippe viendra expliquer ce soir à 20h aux téléspectateurs de France 2. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Aurélie.
On vient d'entendre le mécontentement des syndicats de cheminots qui s'apprêtent à appeler à la grève. Les réactions sont également très critiques dans l'opposition. Mais le chef du gouvernement avait manifestement soigneusement préparé ses annonces et anticipé les attaques, ce qui fait qu'il les contre assez facilement aujourd'hui.
Oui. Oui, tout ça a été préparé et il y a même une certaine forme de mise en scène de la bataille qui s'annonce de la part du gouvernement, ce qui pourrait permettre de faire apparaître l'adoption de cette réforme au final comme une grande victoire politique, alors qu'on peut sérieusement douter qu'elle conduise à une importante contestation, voire à une coagulation de la protestation sociale. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai mécontentement des Français vis-à-vis de la SNCF, à cause des trains en retard, du manque d'informations aux voyageurs en cas de difficulté, d'une tarification mal comprise et mal acceptée, Face à cela, la défense du statut des cheminots sera perçue par l'opinion comme un réflexe corporatiste. Et ça d'autant plus que le rapport de Jean-Cyril Spinetta, remis la semaine dernière et qui sert de base de travail à cette réforme, présente la SNCF comme une entreprise où l'on dépense l'argent public sans compter. Le Premier ministre pointe notamment la dette, 50 milliards d'euros. C'est le budget de l'éducation nationale, a expliqué Édouard Philippe. On a donc là un vrai travail préparatoire de l'opinion publique et il est dès lors peu vraisemblable que la contestation trouve un écho auprès de la population. Même du côté des cheminots, il sera peut-être difficile de mobiliser dans la durée, étant donné que le statut d'agent SNCF de ceux qui sont déjà embauchés ne sera pas remis en cause. Les syndicats pourraient du coup se retrouver assez isolés dans cette affaire. Enfin, du côté de la contestation politique, elle reste inaudible. La France Insoumise parle de privatisation alors que le gouvernement certifie que la SNCF demeurera une société à capitaux publics. La droite affirme qu'on va fermer les petites lignes ferroviaires alors que le gouvernement annonce renoncer à cette préconisation du rapport Spinetta. Et puis, on n'est pas du tout dans la situation de 1995 où, au dire même d'Alain Juppé, la réforme des retraites et du rail était impopulaire et avait été mal préparée. Là, elle est préparée. C'est la contestation syndicale qui ne devrait pas être populaire. Et on voit même que le gouvernement pourrait en tirer un bénéfice politique.
Stéphane Robert, les étudiants dans le domaine de la santé vont être réquisitionnés pour faire de la prévention dans les écoles, les entreprises ou encore les maisons de retraite. Dès la rentrée prochaine, tous les élèves infirmiers, les étudiants en médecine ou encore les futures sages-femmes devront effectuer un service sanitaire de 3 mois qui sera obligatoire pour l'obtention de leur diplôme. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui estime qu'une meilleure prévention devrait réduire les coûts liés aux soins impliqués par l'obésité, l'abus d'alcool ou le tabac. Et donc cet après-midi, Agnès Buzyn et Frédéric Vidal, les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur, ont détaillé ce dispositif devant des étudiants de l'Université d'Angers. Et leur projet a été plutôt bien accueilli, Camille André.
Dès la rentrée prochaine, ils seront 47 000 concernés. Les étudiants en médecine, tous les futurs kinés, pharmaciens, sages-femmes et infirmiers auront obligation de participer à ce service sanitaire qui va donc durer 3 mois, mais pas 3 mois sur le terrain, précise Yanis Merad, le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France.
Il y a 3 étapes pour ces 3 mois. La première étape étant la formation. La deuxième étant la réalisation de l'action de prévention et la troisième étape étant l'évaluation.
Il y aura des crédits à valider. Ce service sanitaire fera donc partie intégrante de la formation des étudiants. Ils interviendront en milieu scolaire mais aussi dans les entreprises, dans les maisons de retraite et même les prisons pour parler contraception, risques liés à l'alcool, au tabac ou au cannabis.
On le voyait d'un bon œil parce que aujourd'hui notre système de santé est largement trop orienté vers le curatif au détriment du préventif. Pour adopter ce virage préventif, il nous semblait évident que la formation était un lieu clé. C'est quelque chose qu'on trouve très positif.
Autre point positif, selon les étudiants, ça devrait renforcer la collaboration entre les différents métiers de la santé. Restent néanmoins quelques interrogations que soulève Anthony Mascle, le vice-président de l'association étudiante La Phage.
La plupart des études de santé ont des maquettes qui sont assez lourdes, assez chargées, et beaucoup de difficultés à s'imaginer comment est-ce que ces 3 mois de service sanitaire aller pouvoir s'intégrer à l'existant et cette crainte que ce soit quelque chose qui vienne se surajouter à du contenu déjà existant qu'on viendrait compresser.
Les dispositifs doivent être testés dès le mois de mars dans les universités pilotes d'Angers, Clermont-Ferrand, Caen et Dunkerque.
Camille André. L'ancien député Europe Écologie Les Verts, Noël Mamère, quitte Le Média, la chaîne télévisée sur Internet cofondée par deux proches de Jean-Luc Mélenchon. Un mois après sa création, la chaîne a décidé de mettre fin à la période d'essai de la journaliste Aude Rossigneux qui a dénoncé dans un courrier un traitement violent et brutal. C'est l'une des raisons du départ de Noël Mamère, mais pas la seule, comme il l'a expliqué à Sophie Delpont.
Je considère que la tournure qui est en train de prendre cette confrontation entre des patrons de presse et l'une de leurs employés, ne me plaît pas. Donc moi, je suis venu librement aux médias pour procéder à ces interviews, que j'ai pu exercer d'ailleurs de manière très libre, mais je n'y suis pas venu pour me retrouver dans cette atmosphère que je déplore, qui me contrarie beaucoup, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'interrompre ma collaboration aux médias. Et j'ai une raison, j'allais dire, supplémentaire, malheureusement, j'en suis vraiment désolé, et qui est journalistique, car j'ai vu le journal de vendredi et ce qui a été dit par le correspondant libanais du Média sur le conflit syrien. C'était un plateau en direct du studio. Moi, je n'accepte pas que l'on établisse un parallèle dans le conflit syrien meurtrier entre les responsabilités du boucher de Damas et celles de ses opposants. Et donc, c'est une raison supplémentaire pour moi de ne pas continuer dans la mesure où ces interviews auxquelles je procède sont intégrées dans le journal. Elles font partie intégrante du journal. Donc voilà, ce sont deux raisons suffisantes qui font prendre cette décision. J'en suis désolé parce que je prenais beaucoup de plaisir à faire découvrir des auteurs que l'on n'entend pas beaucoup sur les grands médias, mais je ne peux pas poursuivre dans de telles conditions.
Et quand justement dans un média qui voulait réinventer un peu le concept et qui portait...
Oui, je vous arrête tout de suite, on ne réinvente rien. Vous ne réinventez rien à France Culture, je ne réinvente rien à France 2 et on ne réinvente rien aujourd'hui. On innove des choses, mais sur des bases qui préexistent. Donc à force de prétendre réinventer, on tombe de haut.
Noël Mamère, déçu par le média, et pour accéder à un dossier complet sur ce sujet, rendez-vous sur franceculture.fr. Muet jusque-là, Alain Juppé a finalement répondu aux attaques du président du parti Les Républicains. Enregistré à son insu lors d'une intervention devant des étudiants lyonnais, Laurent Wauquiez avait mis en doute la capacité de gestion de sa ville par Alain Juppé, affirmant « à Bordeaux, Juppé a cramé la caisse ». Réponse aujourd'hui du maire de Bordeaux, « tout ceci est tout à fait lamentable, cela repose sur de fausses informations. Alain Juppé, lors d'une conférence de presse à Bordeaux, a vilipendé au passage les ignorants, les incompétents et les imprudents à qui il a très envie de claquer le bec. Les propos sont d'une vulgarité extrême, ajoute-t-il. Quant aux effets sur LR et sur la droite en général, ils sont tout à fait dévastateurs. » Fin de citation. Protéger les plus vulnérables du froid, c'est une priorité alors que 37 départements sont toujours placés en vigilance grand froid, du Pas-de-Calais en passant par la région Grand Est jusqu'au Var. Plus de 3000 places d'hébergement temporaire ont donc été débloquées, dont 500 à Paris. Mais pour beaucoup d'associations, Charlotte Lalanne, ce dispositif d'urgence reste insuffisant.
Il est insuffisant et surtout inadapté, car si l'on s'en tient aux chiffres, les places d'hébergement d'urgence n'ont jamais été aussi importantes. De 80 000 en 2012, elles sont passées à près de 150 000 aujourd'hui. Une augmentation liée à la massification de la pauvreté en France. Sauf que cette approche quantitative ne suffit pas, estime Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Santé.
Effectivement, il y a des efforts, mais il n'y a pas des efforts à la hauteur des besoins. Ce sont des places de mise à l'abri, hein. Donc c'est des salles municipales, des gymnases. Voilà, c'est pas des structures type centre d'hébergement classique. Donc c'est très très bien de mettre à l'abri. La vraie question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer quand les températures vont remonter ? D'où l'importance de faire très rapidement des évaluations sociales, de manière à pouvoir faire ensuite des orientations adaptées, parce qu'il n'y aurait rien de pire que de remettre les gens à la rue avec la remontée des températures. Il y aurait plusieurs solutions. D'abord, fluidifier les structures d'hébergement par des sorties positives vers du logement. Encore faut-il qu'il y ait du logement à coût abordable. Et puis, toujours en lien avec le logement, de nombreuses personnes pourraient accéder directement de la rue à un logement.
Le logement d'abord, autrement dit, sortir de la logique urgentiste, une petite révolution dans l'aide aux sans-abri. C'est l'idée selon laquelle aucun accompagnement n'est possible dans la rue, ni insertion, ni accès aux soins. Bref, qu'il faut d'abord un logement pérenne. En Finlande, ce dispositif mis en place depuis 10 ans aurait permis de diviser par 3 le nombre de sans-abri de longue durée.
Le cessez-le-feu que l'ONU a demandé en Syrie n'est pas encore entré en vigueur, mais la Russie, alliée du régime syrien, ordonne l'instauration d'une trêve humanitaire quotidienne à partir de demain dans la Ghouta orientale, enclave tenue par les rebelles syriens à l'est de Damas. Des annonces encore très en deçà de ce que demandent inlassablement les organisations de secours. Les précisions de Claude Bruyot à Moscou.
Sergueï Choïgou, le ministre russe de la Défense, évoque la création de couloirs humanitaires pour permettre aux convois de nourriture et d'assistance médicale de secourir les populations civiles sur place. Chaque jour, à compter de demain mardi, ces couloirs seront ouverts et accessibles durant un créneau de 5 heures, entre 9h le matin et 14h l'après-midi. Le ministre Shoigu précise que les coordonnées indiquant les emplacements de ces couloirs humanitaires seront très bientôt rendues publiques. Toutes ces dispositions font suite à l'ordre donné à son état-major en Syrie par Vladimir Poutine en personne pour instaurer cette trêve humanitaire journalière dans la Ghouta orientale. Auparavant, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, avait, lui, sur le versant diplomatique, cette fois, dénoncé la provocation des groupes terroristes de la région concernée, coupable à ses yeux de tout faire pour entraver l'aide humanitaire, une façon pour la Russie de justifier, parallèlement au dispositif humanitaire, la poursuite des combats à proximité par le régime syrien.
Claude Bruyot à Moscou. En Allemagne, le parti d'Angela Merkel approuve l'accord de coalition conclu avec les sociaux-démocrates. Après avoir provisoirement circonscrit un début de rébellion de l'aile droite de son mouvement, la chancelière a obtenu une majorité écrasante parmi les délégués du parti chrétien-démocrate en faveur de la grande coalition avec le SPD et pour nommer Annegret Kramp-Karrenbauer au poste de secrétaire générale de la CDU. Angela Merkel est donc parvenue à reprendre la main sur son parti au congrès extraordinaire de Berlin, mais la CDU prépare sa succession. Les explications de Nathalie Versieux à Berlin.
La CDU a donné son feu vert à la grande coalition. Sans surprise, le vote des délégués en faveur d'un nouveau gouvernement Merkel avec l'appui du SPD était considéré comme acquis. À l'occasion d'un discours fleuve d'une heure en fin de matinée, Angela Merkel, confrontée à la grogne de l'aile droite de son parti, a promis un renouveau programmatique alors que 47% des Allemands aimeraient, selon le dernier baromètre de la chaîne de télévision publique ZDF, qu'elle passe la main avant la fin de son mandat. Beaucoup ne croient pas à un renouveau avec Angela Merkel à la tête de la CDU. Le congrès de Berlin a ainsi commencé à organiser l'après-Merkel, mettant sur orbite deux dauphins potentiels, Annegret Kramp-Karrenbauer, une proche de la chancelière, et Jens Spahn, un jeune rival de 37 ans, particulièrement critique et ambitieux.
Les résultats de la consultation des adhérents du SPD pour ou contre la coalition gouvernementale seront connus dimanche. Situation toujours très critique au Soudan du Sud, où la famine pourrait à nouveau frapper la population. Dans l'immédiat, ce sont plus de 6 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire aiguë, chiffre qui pourrait atteindre 7,1 millions en avril ou en mai prochain, malgré l'aide humanitaire qui est mieux organisée que l'an dernier. Serge Tissot, représentant de la FAO au Soudan du Sud, nous explique les raisons de cette insécurité alimentaire.
On a à la fois un problème de manque de nourriture, donc c'est l'insécurité alimentaire, plus un problème de nutrition qui touche directement les enfants. Le principal facteur de cette insécurité alimentaire est le manque de production agricole en 2017, du fait que les fermiers ont quitté leurs champs à cause des conflits. Donc il y a énormément de personnes, notamment la frontière avec l'Ouganda, qui ont quitté le Sud-Soudan pour se retrouver dans des camps de réfugiés en Ouganda. Et ce qui a produit une forte diminution de la production agricole en 2017. Et ce manque de production agricole, bien entendu, se reflète sur la situation alimentaire dans le pays. Pour donner une idée du déficit, il y a environ 480 000 tonnes de céréales qui manquent au niveau de la production agricole dans le pays. Ça représente 40% des besoins du pays qui doivent être fournis soit sous forme d'aide humanitaire, soit partiellement par les marchés. Donc, on commence l'année 2018 dans une situation qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'elle était en 2017 en termes de nombre de personnes qui ont besoin d'aide.
Serge Tissot de la FAO répondait à Nadine Epstein. Un portrait pour finir, celui que certains appellent le Pablo Escobar équatorien, en référence au patron du cartel de Medellín abattu par la police colombienne. Washington Prado Alavo, alias Gerald, est soupçonné d'avoir fait passer plus de 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis et Washington vient d'obtenir son extradition par les autorités colombiennes. La correspondance d'Éric Sanson à Quito.
Sur le papier, rien ne destinait cet homme de 35 ans à se transformer en leader d'une organisation responsable de l'envoi de 250 tonnes de chlorhydrate de cocaïne aux États-Unis, sans oublier 150 tonnes supplémentaires saisies par les autorités. Propriétaire d'une vingtaine de chalutiers et de dizaines de go-fast, ces vedettes extrêmement rapides utilisées par les trafiquants, Washington Prado en 2004 n'était qu'un simple pêcheur de la ville équatorienne de Manta. Ses qualités de navigateur dans les eaux de l'océan Pacifique ont attiré l'attention du groupe connu comme Los Rastrojos et des frères Combat, du cartel colombien du nord de la vallée. Depuis le port colombien de Tumaco, il convoie des chargements de cocaïne vers le Panama, le Costa Rica, le Guatemala et le Mexique. Il gagne 50 000 dollars par voyage. 6 ans plus tard, en 2010, ses contacts en Colombie sont presque tous capturés, mais à l'époque, Washington Prado en savait assez pour revendiquer son indépendance. Il achète une douzaine de grands chalutiers qui servent de station-service en pleine mer pour les vedettes rapides chargées chacune de près d'une tonne de drogue. Il en envoie de 10 à 12 chaque semaine. Son style de vie attire l'attention de l'agence américaine antidrogue il y a 2 ans. Se sentant menacé, il décide alors de revenir en Équateur, mais un voyage à Cali en avril dernier sera le dernier. La femme qu'il allait rejoindre était de la police colombienne.
Éric Sanson, correspondant de France Culture en Équateur. Ambiance toujours glaciale demain sur l'Hexagone. Le soleil dominera le matin sur la moitié nord. avant de devenir plus mitigé l'après-midi. Dans le sud-est, les nuages seront nombreux toute la journée, encore accompagnés d'averses de neige jusqu'en plaine. Les températures, moins 4 à moins 8 degrés dans les terres le matin, moins 8 à moins 12 sur les hauteurs. Et le vent de nord-est accentuera la sensation de froid. Les maximales ne dépasseront pas moins 4 à 0 degrés en plaine, exception faite des régions méditerranéennes, comme toujours, où il fera 2 à 5 degrés. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.